Salut les auditrices et les auditeurs, c'est Greg et je vous retrouve avec un grand plaisir pour le début de cette troisième saison du podcast Transition. Comme pour la fin de la saison 2, eh bien on va continuer sur le même rythme, c'est-à-dire deux épisodes par mois. Un épisode dans lequel je reçois un ou plusieurs invités pour parler d'un sujet par rapport au sport, à l'entraînement ou à la technologie sportive. Et puis un deuxième épisode dans lequel je vous raconte les coulisses de Nakan.ch. Vous en avez maintenant l'habitude, vous avez déjà entendu plusieurs de ces épisodes. Comme d'habitude, si vous aimez cet épisode, si vous aimez le podcast Transition, allez sur la plateforme que vous utilisez pour écouter le podcast, mettez un petit like à cet épisode et puis mettez des commentaires, envoyez-moi des feedbacks par rapport à ce que vous pensez des épisodes. Moi, ça m'aide à améliorer toujours un peu plus le contenu de ce podcast. Pour ce premier épisode de la saison 3, j'accueille avec grand plaisir Jonathan Medge, qui est responsable produit sport et outdoor chez Garmin France. Et puis, avec lui, on va plonger un petit peu dans le monde de Garmin. Comment est-ce qu'on conçoit une montre? Qu'est-ce que c'est une journée type pour un product manager chez Garmin? Je vous laisse sans plus attendre avec ce nouvel épisode. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Medge de Garmin France qui va nous parler du développement de montres Garmin. Alors il m'a dit qu'il n'allait pas pouvoir nous dévoiler de grands secrets de chez Garmin, mais je pense qu'il y a quand même énormément de choses intéressantes qu'il va pouvoir nous dire. Les personnes qui connaissent bien le site l'avaient déjà vu dans une vidéo qu'on avait mis en ligne à la sortie des Fenix 7 et Epix 2. On avait enregistré ça à Chamonix à l'époque. On avait déjà parlé de cette gamme-là, mais bien des choses ont changé depuis hein, chez Garmin et dans la gamme Fenix en particulier. On va parler de tout ça avec lui. Jonathan, merci d'être dans le podcast.
Bonjour Grégory, merci beaucoup pour ton accueil. Et puis j'espère que je vais pouvoir t'apporter un maximum d'informations et donner à tous plus de vision sur Garmin et sur tout ce qu'on peut faire aujourd'hui sur le marché.
Alors, je suis sûr que nos auditeurs, ils ont plein de questions et plein de choses qu'ils aimeraient savoir sur Garmin, parce que c'est quand même une des marques de montres favorites des sportifs et des amateurs d'activités outdoor. Peut-être avant de parler directement du détail des montres, du développement, de comment ça se passe chez Garmin, est-ce que tu peux déjà nous dire qui tu es et puis ce que tu fais dans la vie, ce que tu fais chez Garmin et puis qu'est-ce que c'est une journée type de ton job chez Garmin?
Alors, je vais essayer de le faire très très rapidement. Avant de parler de ce que je fais chez Garmin, je pense qu'il faut quand même rappeler qu'est-ce que Garmin, parce que Garmin, vous, la plupart des gens à qui tu t'adresses, donc du coup vont penser que effectivement Garmin c'est les montres de sport, c'est plein de produits comme ça, mais Garmin c'est une entreprise qui a été créée en 1989 par Gary Burrell et Ming Kao. Donc dans le Kansas aux États-Unis, dans le centre des États-Unis. Donc c'est une entreprise qui a 35 ans aujourd'hui. Ça s'appelle Garmin parce que Gary et Min, ça fait Gary, donc Garmin pardon. Donc du coup, c'est pour ça que Garmin s'appelle comme ça. C'est vraiment le début des deux prénoms des fondateurs. Et puis ça fait 35 ans qu'on évolue sur différents grands marchés. Donc les principaux, donc ça va être l'automobile, le sport, l'outdoor, la marine et l'aviation. Donc en fait, quand on porte une montre Garmin, on porte aussi des technos qui sont issus d'autres marchés. C'est un savoir-faire maintenant qu'on a depuis 35 ans et qu'on développe sur différents marchés. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui connaissent les montres de course à pied, mais qui ne savent pas qu'on fait des appareils de golf, des ordinateurs de plongée, de la communication par satellite, enfin plein de choses complètement différentes. Et donc c'est une entreprise qui a cessé d'évoluer depuis 35 ans et qui continue donc à innover en permanence. Et donc l'entreprise, elle se divise en quatre grandes parties. Donc tu as la partie marketing, ça comme dans toutes les entreprises, la partie sales, donc la partie vente. Et ensuite il y a le product management qui inclut aussi l'engineering à l'intérieur. Et ensuite tu as la partie production. Donc ça c'est les cinq grandes parties qui composent l'entreprise. Enfin les quatre grandes parties, si je compte l'engineering, ça fait cinq. Et en fait, moi, je suis en charge du product management pour la France, pour la partie sport, outdoor et automobile. Et je gère aussi la coordination avec la Belgique et la Hollande, qui font partie du même groupe en fait que nous. On a le même directeur général et donc on c'est quatre pays avec le Luxembourg et on navigue tous ensemble. Et donc, du coup, mon job, moi, c'est marketing and sales product manager. Alors, je précise parce que il y a beaucoup d'entreprises où le product management, c'est complètement différent. Chez nous, il y a deux types de product managers. Tu as les product managers qui sont aux US et qui, eux, vraiment travaillent sur un produit spécifique. Tu as, par exemple, John Osler, qui est chef produit pour la partie Phoenix. C'est lui qui était à l'UTMB et qui a présenté Phoenix au moment du lancement Phoenix 8. Donc, lui, il est product manager pour Phoenix 8. Et ensuite, dans les différents pays, déjà au niveau européen, tu as des product managers européens, mais là, qui sont vraiment orientés vente et marketing. Et ensuite, dans chaque pays, tu as aussi des product managers, mais qui sont en charge de plusieurs marchés. Par exemple, moi, j'ai à peu près 6-7 marchés en gestion et je m'occupe pas que des montres, je m'occupe aussi des ordinateurs de plongée, je m'occupe aussi du golf, enfin de plein de marchés complètement différents. Donc voilà. Et puis en France et en Hollande, alors en France on est 3 product managers pour la partie sport, outdoor et automobile, et puis il y a un product manager pour la marine. Voilà un petit peu comment ça se décompose. Et donc on gère tous plusieurs catégories de produits et ensuite chaque pays a des forces des forces par rapport à d'autres. Par exemple, chez nous, on est très très orienté course à pied, trail running, parce que nous, en tant que product manager, on est des très très gros pratiquants. On a un marché qui est quand même assez conséquent. Mais par exemple, en Allemagne, ils ont des product managers qui sont ultra orientés cycling, comme en Angleterre d'ailleurs. Et donc du coup, c'est eux qui vont aussi donner peut-être un peu plus d'input sur la partie cycling. Mais voilà, un petit peu comment ça fonctionne. Après, tu me demandais aussi une journée type. Alors, une journée type, donc chez nous, le product manager, il est, donc comme je te disais, tu as le marketing, les ventes et le product management. Et donc, le product management, c'est vraiment au centre du marketing et des ventes. En fait, nous, notre job, c'est de faire le lien entre les services marketing, communication, sponsoring, digital, support, SAV, les ventes, au sujet du produit. C'est-à-dire qu'on arrive avec le produit, on le lance et en fait, on est le point de contact pour l'ensemble de tous ces services qui tournent autour. Et en fait, on élabore avec eux le contenu, la distribution, le storytelling et ensuite, on diffuse ça avec eux. On fait aussi, une fois que tu as lancé le produit, la gestion de toutes les problématiques que tu peux avoir autour du produit, le SAV, le support, répondre à toutes les questions, tous les petits bugs que certains clients peuvent des fois avoir, les remonter, les faire évoluer, faire progresser le produit. Donc voilà. Et ensuite, ça c'est la première partie de notre boulot. Donc vraiment faire le lien entre tous les services. La deuxième partie, c'est d'échanger avec les US et les product managers aussi au niveau européen pour mettre toutes nos idées ensemble et faire évoluer les produits dans le futur. Donc ça c'est vraiment le job de rêve, parce que du coup chacun met sa petite patte au nouveau produit, donc ça c'est assez sympa. Et puis c'est d'ailleurs pour ça que moi je vais régulièrement aux États-Unis aussi pour échanger avec les product managers là-bas et du coup parler des développements, parler du business, parler plein de choses. Et ensuite il y a une grosse partie test aussi où on emmène les produits sur le terrain lors de nos activités perso aussi. On essaye de faire des retours, on essaye de penser à de nouvelles idées. On passe énormément de temps sur le terrain à pratiquer et puis à échanger avec les gens. Mais ça, je t'en parlerai un petit peu plus loin dans la conversation. C'est plus pour la partie organisation, mais c'est un petit peu long, mais c'est juste pour expliquer comment on est structuré, parce que ça permet aux gens de mieux comprendre comment on travaille aussi. Voilà, il y a vraiment, il y a moi, j'ai fait plusieurs boîtes, et ce qui est intéressant dans celle-ci, c'est que on échange énormément avec les gens qui finalisent le produit. Et ça, c'est vraiment ça a une valeur énorme. C'est une grande famille, Garmin. Et quand tu vas là-bas, tu vas courir, tu vas faire du vélo, tu discutes de plein de trucs, tu dis ce que tu rêverais d'avoir dans le produit, tu fais tous tes retours. Et en fait, tout ça, après, on le travaille ensemble et puis ça donne les produits qu'on sort aujourd'hui. Je pense que ça participe vraiment au succès de l'entreprise.
Tu disais que dans le terrain, tu passes du temps pour tester le produit. Je crois que vraiment que tu ménages pas tes efforts à ce niveau-là. T'es un grand sportif et notamment un grand trailer, Jonathan.
Ouais. Bah, en fait, alors moi, perso, tu me demandes un peu mon parcours, mais moi, à la base, je viens du VTT. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de VTT. Je fais de la descente, je fais plein de trucs. Jusqu'au jour où j'ai eu un gros accident. Et du coup, après, j'ai un petit peu levé le pied. Et puis surtout, j'ai commencé à travailler. Donc, du coup, il a fallu que je change de région. À l'époque, j'étais à Paris. Et après, j'ai bougé à Nice. Et à Nice, j'ai fait énormément d'enduro VTT. Donc, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si... Voilà, c'est vraiment de l'enduro avec tout ce qui est méga-avalanche, les choses comme ça, les courses vraiment enduro longue distance. Et puis ensuite, j'ai fait l'erreur de mettre, comme toi, le pied dans le triathlon. Et puis alors là, ça a été la machine infernale. En fait, j'ai commencé le triathlon à l'ONN, Olympique Nice Natation, avec un gars qui s'appelle Yves Cordier, qui est le big boss de l'Ironman Nice. Donc à l'époque, je m'entraînais avec Jeanne Collonge, Romain Guillaume. Alors bien sûr, j'avais pas leur niveau, mais on nageait tous aux mêmes horaires, on allait rouler tous ensemble, on courait ensemble. Donc c'était vraiment cool parce que tu étais vraiment dans une émulation en permanence, quoi. C'était vraiment top. On nageait avec Yannick Agnel, Camille Muffat aussi à l'époque. Donc voilà, t'étais drivé. Et puis tu pouvais entendre aussi les retours de tous ces clients, tous ces consommateurs en fait de produits. Voilà. À l'époque, je travaillais pas encore dans l'électronique, mais déjà j'avais une vision quand même des produits du sport et voilà. Et puis après, Ironman, Ambraman, effectivement. Comme toi, j'ai fait pas mal de triathlon. Et après, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Sébastien Camus. Et Sébastien Camus, c'est donc un trailer professionnel qui habite du côté de Nice aussi. Et du coup, Seb Camus, c'est lui qui m'a fait rentrer chez Garmin. Parce qu'à l'époque, il cherchait un product manager et il m'a dit, ce job, il est pour toi. Donc, il a tout fait pour que je puisse avoir ce job. Et puis, par contre, ça m'a forcé à remonter à Paris. Donc ça, c'était le gros problème, c'est que je suis remonté à Paris. Et puis ce Seb Camus, il m'a aussi poussé à faire du trail. Et comme tu disais, depuis 2014 maintenant, je fais que du trail en permanence. Et puis, à l'époque, quand je m'étais mis en défi de faire l'ensemble des courses de l'UTMB, et j'ai terminé ma quête en 2023 avec les 7 courses de l'UTMB. Et puis bah maintenant, je suis focus plus sur la route et sur le marathon. Donc voilà. Ça, c'était juste pour parler un peu de mon passif sportif et du coup mais qui m'aide énormément en fait chez Garmin. Après je te le redirai, mais chez Garmin il y a une multitude de personnes qui pratiquent, c'est incroyable quoi.
Non mais justement, je pense que c'est important de connaître ton background pour se rendre compte que vraiment tu utilises à fond les produits dont tu participes au développement, et je pense que ça c'est important effectivement. Du coup, chez Garmin en particulier, alors on va prendre l'exemple de la Fenix 8 qui est sortie il y a quelques mois maintenant. Quand on conçoit une nouvelle montre ou quand on planifie une nouvelle montre ou une nouvelle génération de montres chez Garmin, comment est-ce que on pose les choses à plat au début pour dire tiens, on aimerait aller dans cette direction au niveau des fonctionnalités qu'on veut ajouter ou plutôt dans celle-ci, ou tiens, on va faire converger, typiquement avec la Fenix 8, c'était le cas, on a rajouté des fonctionnalités de plongée qui étaient jusque-là dédiées à une gamme spécifique chez Garmin. Du coup, de manière générale, comment est-ce qu'on rassemble toutes ces informations pour dire c'est dans cette direction qu'on aimerait aller au niveau des fonctionnalités?
Alors, ouais, en fait, c'est vraiment la question, c'est surtout de savoir comment on détermine notre vision, quelles sont les motivations pour le développement, des choses comme ça. Déjà, comme je disais, chez Garmin, il y a énormément de pratiquants. Rien qu'au service marketing chez nous, en France, t'as 5 finishers de l'UTMB, Thor des Géants, PTL, Diag, enfin tu vois, donc on est tous des pratiquants. Donc déjà ça nous motive à faire évoluer les produits en permanence, hein. Clairement, on a toujours envie d'avoir quelque chose de supplémentaire. Et ensuite, il y a la vision globale de l'entreprise. C'est la vision aujourd'hui de l'entreprise, c'est enrichir l'expérience des consommateurs. Et en fait, fournir des outils d'analyse et d'accompagnement pour que chacun puisse après, dépasser ses limites, s'épanouir, progresser, tout ça avec un produit connecté et grâce à nos produits. Donc, la première chose à faire pour atteindre ça, c'est l'écoute des consos. Nous, c'est là où on passe le plus de temps, c'est sur le terrain. Donc, c'est les salons, c'est les courses, c'est les événements presse avec qui on échange énormément avec la presse aussi, parce que bah eux, ils prennent en permanence le pouls du marché, ils savent exactement les retours. Tu vois, il y a encore 2 semaines, j'étais en Corse avec des journalistes et les gars ils me disaient des trucs, mais en fait, indirectement, je notais plein plein de choses parce qu'il y a des retours qui sont super intéressants. Mais c'est aussi nos revendeurs, en fait, parce que nos revendeurs, bah, ils sont en contact direct avec les consos. Et du coup, bah, eux, ils nous font énormément de retours sur les évolutions qu'ils voient. Et puis aussi, il y a notre support qui est au téléphone en permanence avec les clients et qui remonte beaucoup de choses. Donc voilà. Donc déjà, la première chose, ouais, c'est l'écoute. Et passer énormément de temps sur le terrain. Et puis, une fois qu'on a déterminé ce qu'on veut, ce que veut le consommateur, on détermine ce qui est faisable, ne serait-ce qu'en termes de technologie, en termes de disponibilité des composants, en termes de production. Et puis après, bah, on développe et on essaye de rendre possible ce qui paraît impossible sur le papier, en fait. C'est ça un petit peu le challenge. Et ensuite de le donner au conso et pour que les gens puissent s'épanouir avec le produit. J'ai un exemple tout bête, mais je sais pas si tu vois la fonction Climb Pro par exemple. Bah Climb Pro, bon, maintenant c'est dans les Edge, c'est dans les montres, c'est voilà. À la base, Climb Pro, c'est un besoin. Bah nous, chez nous, on a un product manager qui s'appelle Mathieu, qui est dans mon équipe, et Mathieu, il disait, on était en train de courir en montagne, il disait, putain, ça serait quand même énorme de savoir dans combien de temps on arrive au sommet, parce qu'on n'en pouvait plus. Et en fait, on s'est dit, ouais, c'est vrai que ça serait cool de pouvoir avoir une notion via la carte de la montre, de savoir exactement combien il y a jusqu'au sommet ou par rapport à un parcours et d'avoir le pourcentage. Voilà. Donc ça, de pente, le temps restant, voilà. Et en fait, ça, bah, tu vois, c'est un petit truc qu'on se note. Ensuite, on va sur le marché, on échange avec les gens et puis on se rend compte que, bah, les gens, eux aussi, potentiellement, ça pourrait être intéressant pour eux, même sans leur dire qu'on, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit. Et puis, après, on en parle au Product Manager Europe, au niveau US. Ensuite, on explique ce qu'on veut, on fait des schémas, on essaye de monter un petit peu le process, et puis après, bah, ça sort dans un produit et ça fonctionne, et puis ça sort dans un autre produit, et puis après, ça devient une fonction clé que personne d'autre n'a aujourd'hui sur le marché. Et en fait, tout ça, c'est parti d'une rando entre potes, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on détermine un peu les nouvelles fonctions qui vont arriver dans le produit. Et voilà, je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais voilà comment on essaye d'enrichir en fait l'expérience consommateur avec plein de nouvelles idées. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive tout le monde dit aujourd'hui, il y a beaucoup trop de choses dans un produit Garmin. Et ça, c'est un peu le truc à chaque fois. Ouais, mais dans un produit Garmin, il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup trop de choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de choses dans un produit Garmin, mais par contre, chaque chose qui est intégrée dans un produit Garmin, elle sert à quelqu'un aujourd'hui sur le marché. Elle sert à un utilisateur, à un type d'utilisateur. Donc peut-être que toi, tu vas pas utiliser telle fonction, mais dis-toi qu'il y a un mec dans le monde à qui ça sert et que peut-être même cette fonction, elle peut lui sauver la vie dans certaines conditions ou voilà. Donc voilà un petit peu comment nous, notre vision et notre motivation en termes de développement, elle fonctionne. C'est vraiment le besoin du consommateur qui est au centre de tout.
Alors moi j'ai peut-être deux questions pour affiner un petit peu toute cette
Ouais.
discussion-là. La première c'est est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'ajouter des nouvelles fonctionnalités aux montres parce que on arrive à un niveau déjà de complexité et puis on a quand même des fonctions qui sont assez complètes sur les montres. Est-ce qu'aujourd'hui la réflexion chez Garmin quand on va lancer la réflexion sur la prochaine génération de Fenix par exemple, est-ce que cette discussion elle est plus difficile qu'à l'époque où on passait de la Fenix 3 à la Fenix 5, etc., où on se disait il y a encore tout le champ des possibles qui est ouvert, ou est-ce que vous avez quand même énormément encore de backlog, de choses, vous vous dites ça, dès qu'on a le temps, on va implémenter, etc.
Franchement, on n'a pas plus de difficultés à intégrer des nouvelles fonctions aujourd'hui que sur la Fenix 3, clairement. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque de la Fenix 3, bah, les composants n'étaient pas les mêmes et les technologies n'étaient pas les mêmes et on n'avait pas accès à tout ça. Donc ça paraissait être impossible. Et demain, il y a des technos, tu te diras, il y a des technos de demain. Aujourd'hui, on n'imagine même pas qu'elles arriveront, tu vois. Donc en fait, ça permet de redéfinir complètement ton produit en permanence et même de lui donner une orientation. Alors, les gens ne l'ont peut-être pas vu clairement sur Phoenix 8 parce que c'est une démarche qui est interne. Et après, si tu veux, je te parlerai un petit peu du process de développement d'une nouvelle montre. Quand on a développé la Phoenix 8, on n'est pas parti d'une feuille blanche, mais presque, tu vois. C'est-à-dire que, OK, vers où on veut aller, quels sont... Ça, c'est vraiment la grande question. Et aujourd'hui, notre Phoenix 8, c'est pas une montre de trail, en fait. Ce n'est plus une montre de trail. Et on est revenu un petit peu à ce qu'était la première Phoenix, donc il y a 12 ans. Et la première Phoenix, c'était une montre outdoor. Et maintenant, notre orientation, elle se fait vachement là-dessus. C'est on emmène notre produit vers plus un produit outdoor qu'un produit trail spécifique. Mais ça n'empêche pas que tu gardes tout ce que tu as en trail dedans. Et après, du coup, c'est vrai qu'à force d'ajouter des nouvelles fonctions, arrivent de nouveaux challenges. Comment tu fais pour que ton produit il reste simple et intuitif tout en intégrant l'ensemble de ces technologies? Et c'est pour ça que sur la Phoenix 8, on est reparti d'une base saine. Et le software a entièrement été retravaillé. Alors les gens peuvent dire oui, c'est le même qu'ils ont refait un petit peu. Non, on est parti de zéro, on a tout recommencé parce qu'en plus on a changé de plateforme, on a la même plateforme que les 965 maintenant, qui est une nouvelle plateforme avec la molette. Enfin voilà, il y a tout un process. Puis il y a aussi une nouvelle organisation en interne. À l'époque, tu avais le fitness qui travaillait d'un côté, donc le sport, et tu avais l'outdoor qui travaillait de l'autre. Maintenant, tout le monde travaille ensemble. Alors ça paraît simple comme ça, mais en fait, en termes d'engineering, c'est et en termes d'organisation, c'est monstrueux parce que nous à Garmin, aux US, il y a 8000 ingénieurs qui travaillent tous ensemble. Donc, tu vois, ça commence à faire beaucoup de monde. Et donc, du coup, voilà, on a tout repensé. Et puis, et c'est pour ça que maintenant, les nouveaux challenges, c'est que le produit soit simple et que, en même temps, on puisse y intégrer des nouvelles technologies, qu'on puisse intégrer des nouveaux composants et intégrer des nouveaux besoins aussi des consommateurs.
OK. Et puis encore peut-être juste une question par rapport à ce choix et cette planification au moment où on conçoit une montre. Aujourd'hui, on n'est plus dans la même situation qu'à l'approche de l'année 2010 où le marché était encore hyper ouvert, c'est-à-dire qu'il y avait encore plein de sportives et de sportifs qui n'avaient pas de montre de sport et on se disait ben voilà, on sort un nouveau modèle, on va non seulement avoir certains clients qui vont passer vers ce nouveau modèle mais aussi acquérir de nouveaux clients qui n'ont pas encore de montre de sport. Aujourd'hui, cette fraction de personnes est beaucoup plus faible et donc du coup on doit aller chercher des consos qui soit ont déjà une montre Garmin un peu ancienne qui vont la renouveler soit des marchés des clients d'autres marques et du coup est-ce que dans la réflexion quand on conçoit une nouvelle montre est-ce que la concurrence elle entre aussi en jeu, est-ce qu'on va regarder tiens Apple a sorti l'Apple Watch Ultra, l'Apple Watch Ultra 2, tiens il se passe ceci chez Suunto, chez X ou Y et puis est-ce qu'on va aussi adapter peut-être un petit peu l'offre qu'on va proposer avec son nouveau produit par rapport à ce que fait la concurrence?
Alors, effectivement, c'est sûr qu'on regarde ce que fait la concurrence, hein, bien entendu. Après, il y a différents marchés. Pour moi, il y a le marché du sport et ensuite, il y a le marché du wearable qui sont deux marchés différents. Et on essaye, nous, d'être de plus en plus présents sur le marché du wearable puisque sur le marché du sport, on a quand même... Maintenant, on est très très présent. Et effectivement, on regarde ce que font les concurrents. C'est pour ça que y a rien de secret, mais tu vois très bien que nos produits ces dernières années, on était très très spécialisés sur le sport. Quand tu regardes, je prends l'exemple de la Phoenix qui a évolué. À la base, c'était une montre outdoor. Ensuite, une montre vraiment dédiée sport, trail running, différentes tailles, voilà. Et au fur et à mesure des années, on a commencé à intégrer des fonctions connectées. Et de plus en plus, on va tirer vers le monde du connecté. Pourquoi ? Parce que le connecté, ça permet aussi d'aller parler à d'autres personnes, des gens qui voudraient s'identifier au sport, qui voudraient pratiquer le sport, mais qui voudraient aussi avoir une montre connectée. Et la Phoenix 8, elle va de plus en plus vers ça. Le vrai challenge dans tout ça, c'est qu'il faut que tu arrives à parler à des gens qui pratiquent un tout petit peu le sport et qui veulent un produit très simple d'utilisation, mais qui veulent quand même avoir une Phoenix parce que c'est le produit de référence et ils veulent se faire plaisir. Voilà. Donc, et ils veulent un produit qui est connecté, simple d'utilisation, pour faire leur sport une ou deux fois par semaine. Et puis sur le même produit, tu as des gens qui sont ultra addicts de sport et qui veulent toutes les dernières fonctions, tous les trucs d'analyse les plus poussés qui existent aujourd'hui au monde, tout ça dans un produit simple et connecté aussi. Tu vois. Donc c'est compliqué de faire... énormément de choses et que ça soit super simple et que ça arrive à parler à tout le monde. Ça, c'est un vrai, vrai challenge et c'est là-dessus où on passe le plus de temps. Vraiment, c'est essayer de réfléchir à comment orienter le produit, comment construire les différents menus, enfin voilà. Et effectivement, on regarde énormément ce que fait la concurrence, on regarde ce que fait Apple, on regarde ce que fait Coros, Suunto. Et c'est bien d'avoir de la concurrence. Moi, à chaque fois, je vais sur les salons, j'échange avec les autres marques, parce que sans concurrence, si tu veux, nous, au niveau engineering, c'est difficile de les motiver vers quelque chose ou de leur donner des orientations parce qu'il n'y a personne qui nous pousse derrière. Donc, quand un marché est acquis, généralement, tu fais beaucoup moins d'innovation. Donc, ce qu'il y a de bien sur le marché du running et de la course en général et du multisport, c'est que justement, on a de la concurrence et que du coup, ça nous pousse à nous dépasser et à réfléchir à plein de nouvelles fonctions. Et plein de nouvelles innovations.
Ouais. C'est clair. Alors, ma question, elle était un peu orientée, hein, c'est clair, parce qu'on le voit. Et moi, ce que je constate aussi, c'est que on a de la mesure ECG qui arrive sur les montres Garmin. On a beaucoup plus de mesures aussi axées plus santé. Et on sent que ça va plus un petit peu dans le domaine de prédilection de celui qui était le domaine de l'Apple Watch avec plein de ces mesures-là. Et voilà, on sent que Garmin a envie aussi d'aller dans cette direction, sans pour autant délaisser le côté sportif. Hein. On a quand même des nouveautés sportives intéressantes qui arrivent sur chaque modèle de Garmin. Donc, tu nous as proposé avant de parler un petit peu plus du développement d'une montre. Une fois que toutes ces idées-là, elles ont été mises en place, comment est-ce qu'on fait pour aller concrètement vers l'aboutissement au niveau modèle, du nouveau modèle? Est-ce qu'il y a beaucoup d'itérations, de prototypes, etc. ou est-ce qu'on sait assez rapidement où on veut aller au niveau design matériel et logiciel? Et puis, peut-être une question qui est intéressante aussi, c'est est-ce que on développe les composants de la montre en fonction des fonctions qu'on veut mettre dedans, ou alors est-ce qu'on choisit les fonctions en fonction des caractéristiques physiques de la montre? Je ne sais pas si tu vois ma question, mais est-ce qu'on sait avant les composants électroniques dont on dispose, puis ensuite on adapte ce qu'on va mettre dedans, ou est-ce qu'on pousse l'ingénierie à développer certaines choses pour que ça fasse rentrer les fonctions qu'on aimerait implémenter?
Déjà sur le processus de développement, la première chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la grande question, c'est où on veut aller. Déjà, c'est vraiment le premier truc. Ensuite, plus que de parler d'innovation pour chaque produit, on se demande qu'est-ce que vraiment a besoin le consommateur. Ça, c'est le deuxième point. Qu'est-ce que tu aurais besoin d'en plus dans ta montre? Qu'est-ce qui te plairait? Comment tu aimerais afficher tes données? Voilà. Ça, c'est la première grande question. La deuxième question, le deuxième truc, c'est écouter les retours des différents clients sur les events, sur la presse, sur les salons, dans notre pratique de toujours. Déjà, quand on a fait ça, on a fait la moitié du chemin. Tu vois? Parce qu'on sait où on veut aller et on sait ce que les gens veulent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on en parle à peu près 2 ans avant le lancement du produit. Et ensuite, on a énormément de discussions en interne qui te permettent d'avoir les différentes évolutions du produit. Tu sais à peu près vers quoi on va aller. Donc, là, on en est à 2 ans avant le produit. Ensuite, il y a 6 grands points. Donc, une fois qu'on a défini le positionnement, tu vois, donc ce que je viens de dire encore, hein, une fois on sait où on veut aller, une fois qu'on a écouté ce que veut le conso, ensuite on va travailler sur le design, d'accord. Donc définir est-ce qu'on veut garder ce même design, comment on veut le faire évoluer, est-ce qu'on veut un verre plus grand, est-ce qu'on veut un affichage plus grand, est-ce qu'on veut de l'AMOLED, est-ce qu'on veut du saphir, est-ce qu'on garde le solar, est-ce que toutes nos montres doivent s'appeler Phoenix, est-ce qu'on doit garder Pix, toutes ces questions là. Donc ça c'est la partie design. Est-ce qu'on doit faire une nouvelle interface, est-ce qu'on doit mettre une lampe LED intégrée sur l'ensemble de toutes les catégories produits. Ensuite c'est travailler sur les fonctions d'entraînement et de bien-être. Ça c'est la deuxième chose. Est-ce qu'on garde tout ce qu'on a aujourd'hui dans l'entraînement et le bien-être, est-ce qu'on en enlève, est-ce qu'on en rajoute, est-ce qu'on va parler de la sieste, est-ce qu'on va parler de, tu vois, une multitude de choses comme ça, fonctions de navigation, fonctions connectées. Et le dernier point, c'est vraiment l'autonomie. L'autonomie, c'est la chose qui est pour nous une des choses qui est primordiale. C'est-à-dire qu'on pourrait faire la totalité des développements qui existent aujourd'hui sur tout ce qu'on a en tête, on pourrait le faire. Mais si tu n'as pas d'autonomie, ça ne sert à rien en fait. Si ta montre, il faut que tu la recharges tous les jours, ça n'a aucun sens. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on a pris en compte depuis déjà plusieurs années. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux avoir une analyse profonde des données physiologiques, il faut que ta montre, tu la gardes en permanence en fait. Tu la gardes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sans ça, elle peut pas te donner quelque chose de fiable. Si tu la mets à brancher tous les soirs, ça peut pas le faire. Donc, il faut vraiment que l'autonomie rentre vraiment dans ces 6 grands points de développement. Voilà. Après, enfin, du coup, je sais pas si je réponds vraiment à ta question, mais voilà les différentes grandes étapes. Vraiment le positionnement, le travail du design. Et après les différentes fonctions qui peuvent être bien-être, fonction de navigation, fonction de connecté, et à la fin l'autonomie qui est le plus important. Voilà comment nous on découpe le travail, et ensuite on essaye d'introduire un maximum de nouvelles choses avec les nouvelles technologies qu'on a, les nouveaux composants qui sont mis à disposition, et aussi en fonction de tout ce que nous demandent les consos. Ça répond, okay. Je sais pas si ça répond vraiment à ce que tu veux, mais
alors si oui, ça répond dans le process de la démarche de comment on va créer la montre. Maintenant, peut-être plus concrètement, si on prend l'exemple de la sortie de la Fenix 8, sur ce modèle-là, est-ce qu'il y a eu des challenges, des difficultés particulières, des choses que vous avez rencontrées qui étaient tout d'un coup pas prévues ou des problèmes qu'il a fallu résoudre pendant le développement de la montre particuliers dont tu peux nous parler?
Oui, effectivement. Alors déjà, Fenix 8, c'est 2 ans de travail. et donc, du coup, oui, ça a été beaucoup, beaucoup de questions. Bon, la première, et ça, tu la connais, mais c'est... elle va même plus loin qu'il y a 2 ans, en fait. C'est est-ce que la AMOLED, c'est quelque chose pour le marché de l'outdoor? D'accord. On l'avait utilisé sur la partie wellness. On l'a utilisé dans Forerunner. Ça a été un succès énorme. Est-ce que cet écran AMOLED pourrait être utilisable pour la partie outdoor? Ça, c'était une très très grosse question. C'est comme il y a 5 ans, on se posait la question, est-ce que le tactile, c'est quelque chose pour l'outdoor, tu vois? Et en fait, on s'est rendu compte que le tactile, c'était quelque chose pour l'outdoor à partir du moment où la montre, elle tendait vers le marché de la montre connectée et qu'il fallait quand même garder les boutons. Donc, du coup, tactile et boutons, c'est la solution, tu vois? Donc oui, la première question c'était est-ce que la AMOLED c'est fait pour l'outdoor? Et c'est pour ça qu'on a lancé Epix. C'est pour ça qu'on a lancé Epix. Et en fait, Epix au début ça a eu du mal. Pourquoi? Parce que maintenant on le sait, mais le nom Epix n'était pas forcément reconnu. Et puis on s'est rendu compte aussi que les gens, Epix, le fait d'avoir un écran AMOLED c'était quand même un vrai plus, même en outdoor. On avait peur aussi pour la lisibilité en plein soleil, qui est quand même un point très très fort du MIP. Et finalement, on s'est rendu compte que énormément de gens étaient intéressés par cette AMOLED. Donc du coup, on a lancé Epix Pro, Gen 2 Pro, en 3 tailles, pour voir aussi si... ça, c'était la deuxième question, c'était... Est-ce que si on crée une montre Epix de plus grande taille avec plus d'autonomie, est-ce que les gens qui font du trail vont s'équiper avec? Et en fait, on s'est rendu compte que oui. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se suffiraient d'une montre qui avait assez d'autonomie pour faire alors un UTMB assez rapide ou même d'autres courses trail en général. Et en fait, on se rend compte que tout le monde ne court pas des ultras toutes les semaines. Il y a beaucoup de gens qui se satisfaisaient d'une montre comme ça. Et au pire, ils pouvaient la recharger pendant l'épreuve. Et donc, c'est là où on s'est dit, OK, la AMOLED, il faut foncer sur la AMOLED. C'est vraiment un nouvel axe de développement, en plus de tout le reste, bien sûr. Après, on s'est rendu compte que, en fait, Fenix, c'est pas un nom de produit. Fenix, aujourd'hui, c'est une marque, tu vois. Et les gens, ils achètent une montre outdoor, mais ils veulent une Fenix. Ils veulent pas autre chose. Ils veulent pas une Epix. Ils veulent pas un produit qu'ils connaissent pas. C'est comme dans le running, Forerunner, c'est des marques maintenant. On n'avait pas, surtout aux États-Unis, nous en Europe, on avait quand même une meilleure vision de ça, mais aux États-Unis, ils avaient vraiment du mal à comprendre que Fenix était devenu plus qu'un simple nom produit. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a tout basculé sous du Fenix. Mais ça a mis énormément de temps, pour te dire. Moi, j'ai reçu mes premiers prototypes, et mes premiers prototypes s'appelaient pas du nom de Fenix, quoi. C'était des Epix ou des Enduro ou. Voilà, mais du coup, il y avait pas encore Fenix 8 avec AMOLED ou Solar ou des choses comme ça. Okay. Donc voilà, donc ça a été le premier gros challenge de Fenix. Et puis après, effectivement, au niveau du design, ça a été de se dire, bon, par exemple, est-ce qu'on met un verre de un écran de 1 pouce 4 dans la 47 mm? Est-ce qu'on tente le coup, même si tu as un petit peu moins d'autonomie, mais par contre, tu as un plus grand écran, sachant que la 47 mm, c'est celle qu'on vend le plus. Donc du coup, on s'est dit, bon, là, c'est quand même un gros test. Et puis quand on a testé, on a vu les prototypes, on a fait, waouh, laisse tomber, l'écran, il est incroyable, quoi. 1 pouce 4 dans du 47 mm, on ne peut pas passer à côté de ça, même si tu perds un peu en termes d'autonomie. Et puis au final, l'ingénierie, ils sont revenus vers nous, ils nous ont dit, bah, au final, on arrive à avoir la même autonomie que les Pix 2 en 47 mm aussi. Donc on a dit, bon, bah, banco, on garde l'écran de 1 pouce 4. Mais par contre, tu vois, c'est super important pour nous d'avoir un écran de 1 pouce 4 dans une 51 mm aussi, parce qu'il y a des gens qui veulent avoir un max d'autonomie sur de la AMOLED. Donc du coup, voilà. Ça, c'est une force de Garmin de pouvoir démultiplier les SKU aussi. Enfin, quand je dis SKU, c'est les références. Ouais. Ça fait depuis Phoenix 5 qu'on a trois différentes tailles de modèles. Voilà, donc ça c'est un point fort. Et puis, si tu veux une dernière anecdote, et peut-être une question qui se pose aussi sur le marché, mais c'est pourquoi il n'y a pas de... Pourquoi il n'y a pas de Phoenix 43 mm en solar, par exemple, tu vois? Et ça, ça a été quelque chose où on a beaucoup, beaucoup travaillé aussi. En fait, donc, je résume, hein, mais on avait la AMOLED qu'on voulait pousser à fond. Ensuite, on savait aussi qu'il y avait des clients qui voulaient encore avoir du solar. Il y a beaucoup de gens qui, le MIP, ça leur va très bien, et eux, ce qu'ils veulent, c'est un maximum d'autonomie. Donc, du coup, on a gardé le MIP solar. Solar, hein, juste pour info, mais le solar, c'est une technologie française. C'est une entreprise française que Garmin a rachetée il y a quelques années maintenant, qui est basée à Aix-en-Provence, et donc qui ont été entièrement intégrés à Garmin. Donc on a nos bureaux Garmin à Aix-en-Provence qui développent vraiment la technologie solar pour la marque au global. Et donc du coup, il fallait absolument qu'on garde du solar et de la AMOLED. C'est pour ça qu'il y a deux gammes qui sont proposées aujourd'hui. Et donc pourquoi il n'y a pas de solar dans du 43 mm? Bah, tout simplement parce qu'en intégrant la LED, le haut-parleur et la nouvelle technologie solar, en fait, la montre, elle était trop épaisse, elle était trop haute. Et du coup, on s'est dit, bon, et en plus, l'autonomie, bon, elle aurait été bonne, mais pas suffisante. Et du coup, bon, bah, on s'est dit, bah, peut-être que les femmes, elles se tourneront plus vers de la Phoenix 7. Et puis, sinon, de la 47 mm. Et puis, on verra pour Phoenix plus tard, les autres générations, si on sera capable de minimiser. Mais aujourd'hui, technologiquement, on n'était pas capable de réduire en fait cette taille de produit. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de 43 mm en solar.
Ok. Voilà.
Je t'ai donné quelques petites anecdotes quand même.
Oui, non, mais c'est intéressant. Et donc, du coup, on comprend aussi pourquoi il y a des choix tels que celui-là qui ont été faits. Maintenant, bah, on a parlé avant des évolutions qu'on apporte dans les montres. Donc maintenant, la Phoenix 8, elle est sortie. Je pense que toi et les autres product managers de chez Garmin, vous avez aussi la tête aux prochaines générations de montres qui sont en préparation et qui vont sortir. Du coup, est-ce qu'on a une vision sur des grosses améliorations pour les prochaines années? Je ne parle pas forcément que des modèles Phoenix ou même pas que des modèles de Garmin, mais est-ce que l'intelligence artificielle va venir jouer un rôle dans l'entraînement et dans les algorithmes qu'on trouve dans les montres? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez, ou bien est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce que ça réduit trop l'autonomie? Et puis, est-ce qu'il y a encore d'autres innovations qu'on va voir? Il y a aussi une question qui revient régulièrement des lecteurs du site et des gens qui ont une Garmin en Europe, c'est elle est toute prête pour faire de l'ECG en Europe, mais elle n'est toujours pas activée chez nous. Elle est disponible que dans quelques pays, dont les États-Unis. Est-ce que ça aussi, c'est des choses qu'on va voir arriver prochainement sur nos montres?
Alors, bon, aujourd'hui, j'aurais pas le droit de le dire, mais compte tenu que la vidéo, elle sortira un petit peu plus tard, le podcast sortira un peu plus tard. D'ici là, je pense que l'ECG sera disponible sur l'ensemble de nos produits. Enfin, en tout cas, pas l'ensemble de nos produits, mais sur certains de nos produits qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché. En fait, l'ECG, ça dépend pas vraiment de nous. Nous, on l'a déjà aux États-Unis. On a les capteurs qui permettent de le faire. C'est plus une question d'autorisation au niveau européen. Voilà, disons qu'il y a des marques qui ont des plus grandes facilités à obtenir les autorisations que d'autres, peut-être par leur part de marché, ou voilà, et puis peut-être parce qu'ils ont plus d'expérience aussi dans ce domaine-là. Bon, nous, c'est un peu nouveau, mais oui, bien sûr, il y aura l'ECG dans nos produits. Et c'est quelque chose qui sera après une fonction assez classique de nos produits. Et puis sur la partie intelligence artificielle, en fait, comme toute boîte de techno, on regarde, on analyse, en revanche, on doit travailler dessus, mais on veut le faire correctement, tu vois. On va pas se jeter dedans, on va tout mettre en intelligence artificielle, machin, blabla. Il y a encore beaucoup, beaucoup de questions autour de l'intelligence artificielle, même si on sait que bien sûr, ça fera partie des évolutions à venir. Après, nous, on y va à tâtons. On fait le choix de regarder comment ça évolue, et puis peut-être qu'on l'intégrera dans certains produits au début, mais pas dans tous, parce que bon, c'est bien, mais ça a encore ses limites. Et voilà, peut-être que le futur me dira que j'ai tort, hein, mais peut-être que dans 3, 4 ans, 5 ans, on aura tout qui fonctionnera avec l'intelligence artificielle intégrée et tout. Mais voilà, nous, Garmin, on est assez, c'est une boîte assez conservateur sur pas mal de choses. On n'a pas forcément envie de foncer direct dans les nouveaux trucs. On prend le temps, on n'est pas pressé. Il y a d'autres marques aussi qui lancent. Voilà, on choisit nos batailles. Et pour l'instant, bon, l'intelligence artificielle, c'est un axe qu'on travaille, mais c'est pas un axe dans lequel on va se jeter à corps et âme. Voilà, on prend vraiment le temps de voir comment ça évolue et comment ça va changer dans un futur proche. Ouais.
Ok. Et est-ce que tu penses que les montres qu'on aura dans 3, 4 ans, elles seront très différentes au niveau fonctionnel de ce qu'on a maintenant, ou ce sera des évolutions petit pas par petit pas? Et puis voilà, si je prends une montre dans 4 ans, est-ce que je reconnaîtrai quand même la base Phoenix que j'ai aujourd'hui, ou est-ce que on aura des choses qui vont énormément changer?
Oui, alors oui, bien sûr, je pense que si ça change, ça va changer tout doucement. Il n'y aura pas d'évolution majeure d'un coup. Et je te le dis, hein, dans 2 ans, t'inquiète pas, tu reconnaîtras encore ta Phoenix. Le design aura changé, t'auras toujours ce que tu as aujourd'hui dans ta Phoenix, sauf qu'on aura apporté des nouvelles choses, et on aura apporté une orientation outdoor qui est sur la Phoenix, quoi. C'est vraiment notre orientation maintenant. L'objectif, c'est d'avoir le produit parfait pour l'outdoor. Et donc voilà, donc c'est comme ça qu'on oriente les futurs lancements. Et c'est comme ça qu'on oriente les prochaines innovations. Et effectivement, j'imagine qu'il y aura un petit peu d'intelligence artificielle qui va rentrer dans nos différentes, sûrement peut-être même par la voie des applications dans un premier temps, mais oui, ça finira par arriver tout doucement, mais il y a, tu pourras reconnaître, et ça va évoluer petit pas par petit pas, tout simplement parce que il y a quelque chose qu'on a tendance à pas prendre en compte, mais le marché, il est à plusieurs vitesses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on intègre des nouvelles fonctions dans les Phoenix, mais t'as des gens, ils découvrent encore les fonctions des Phoenix 6, quoi. Mm-hmm. Donc il faut aussi le temps que les gens se familiarisent avec les différentes fonctions. Faut pas aller trop vite non plus, parce que nous, on est ultra connectés, on est à fond dedans, on a tout le temps notre nez dans le produit et tout. Mais il y a des gens, déjà, soit ils connaissent pas, ou soit ils ont pas encore pris le temps c'est quelque chose qui les intéresse pas forcément, donc faut qu'ils prennent le temps de s'y intéresser, puis il faut qu'ils prennent le temps de comprendre. Et donc voilà, il faut faire très attention à vouloir aller trop vite. Tu sais, nous, on lance énormément de produits. Chez Garmin, on lance 150 produits par an, donc ce qui est quand même considérable. Nous, en France, tu vois, ne serait-ce que pour nous, la partie sport outdoor auto, on lance plus de 50 produits par an à 3. Donc c'est voilà. Donc on enchaîne. Et des fois, on lance des produits qui sont trop en avance pour le marché, en fait. Enfin, qui sont. Je sais pas si tu avais connu ce produit-là, mais on avait lancé un produit que tu accrochais sur la lunette.
Oui, oui, oui.
Pour voir les informations. Au lieu de regarder sur ton compteur, tu regardes les informations de ton compteur directement dans ce petit produit qui était fixé sur ta lunette.
Varia Vision qui était sorti.
Vision, exactement. Voilà. Et en fait, ce produit-là, c'était incroyable, quoi. En termes de techno, t'imagines, c'était un délire. Maintenant, c'est intégré directement dans les lunettes et tout, mais au final, c'est un produit qui était c'est un produit qui était trop en avance. Au final, c'était un produit qui était trop en avance sur son marché. Et les gens, ils n'ont pas compris. Et ça n'a pas marché. Donc, du coup, ça ne sert à rien non plus de lancer 1 milliard de nouvelles choses qui ne sont pas comprises par les utilisateurs et qui ne sont pas, en fait, le reflet de... On en revient à la première chose que je t'ai dit. Au tout début, c'est vraiment de ce qu'ils ont besoin et de ce qu'ils ont envie d'avoir dans la montre. Donc, il ne faut pas essayer de vouloir dépasser ça. Il faut prendre son temps. Et donc voilà, je pense que ça, ça résume plutôt bien la philosophie de Garmin aujourd'hui, quoi.
Un des retours que j'ai régulièrement des utilisateurs de Garmin, c'est que c'est des produits extrêmement complets, où on trouve une pléthore de fonctionnalités à l'intérieur. Et c'est pareil pour Garmin Connect Mobile, l'application qui va avec pour analyser ces données. Mais que des fois, c'est un petit peu compliqué de retrouver les données ou de les recouper il faut vraiment avoir une bonne expérience de l'application déjà pour savoir où sont les choses et comment les retrouver, et si on veut générer un rapport avec le nombre de mètres de dénivelé positif qu'on a fait sur un mois donné, il faut parfois chercher 5-10 minutes avant de trouver où est-ce qu'on va. Est-ce que à force d'ajouter des fonctionnalités, il n'y a pas aussi derrière un travail de simplification et puis d'intégration de toutes ces données dans l'application qui au bout d'un moment doit être fait? Qu'est-ce que c'est ton expérience et ton retour par rapport à ça?
Alors, effectivement, c'est un très très bon point. Bon, pour être honnête, nous, Garmin, on fabrique des devices, quoi. On fabrique des produits. C'est vraiment notre savoir-faire principal. On fait du soft dans nos produits. Sur la partie applicative, c'est un petit peu moins notre métier. Et c'est quelque chose qu'on essaye de développer en permanence. On le traite aujourd'hui comme un produit, vraiment, l'application. Mais ça prend un petit peu plus de temps. Et puis, on fait face à des challenges que tu ne peux pas forcément retrouver chez d'autres marques. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous, on parle à des gens qui vont acheter leur première montre connectée pour faire du sport, qui vont peut-être même la mettre que pour faire du sport. Et ces gens-là, ils veulent une appli ultra simple, avec des données très basiques, combien j'ai fait de kilomètres, combien était mon cœur, combien j'ai fait de pas, et puis combien j'ai brûlé de calories, quoi, tu vois, très simple. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont ultra spécialisés et qui veulent avoir combien j'ai fait de kilomètres cette semaine, combien j'ai fait d'entraînement, quel est mes running dynamics, qui veulent savoir dans quelle période de leur statut d'entraînement ils sont, quel est mon statut d'entraînement, quelle est ma variabilité cardiaque, et tout, qui veulent un maximum de données, qui veulent avoir des rapports, des bilans, tout ce que tu veux. Et le problème, c'est qu'avoir tout ça dans une seule et même appli, sans perdre les gens, des fois c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'on a refait une nouvelle appli il y a un an de mémoire, où tu pouvais, au début où tu utilises l'application, choisir en fait ton orientation, ce qui te permettait d'afficher plus ou moins d'informations et de retrouver plus facilement les informations dont tu avais vraiment besoin. On essaye de développer pas mal de choses, mais c'est super dur. Oui. C'est vraiment super dur de faire une appli qui répond aux besoins de tout le monde. Et voilà. Et donc, oui, je sais que des fois, Garmin Connect, c'est un peu compliqué. Les gens qui sont ultra spécialisés, et je peux te dire que j'ai un paquet de potes qui me font des retours dans tous les sens en me disant « Oui, mais je comprends pas qu'on n'ait pas encore ça. » Je dis « Oui, mais on y travaille, ça prend du temps et c'est pas si simple. » Parce que quand tu rajoutes une nouvelle fonction, tu prends le risque de perdre des milliers d'utilisateurs de l'autre côté qui se disent « Attends, mais je comprends pas. Avant, mon truc, c'était là. Maintenant, c'est plus là. Ils ont mis un autre truc à la place. » Et c'est un gros, gros travail de fond. Et oui, effectivement, aujourd'hui, je pense que l'appli, pour être honnête, hein, c'est peut-être l'endroit où on est peut-être le moins fort. Et c'est là où on a le plus de progrès à faire. Mais c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, beaucoup. Et c'est vraiment un des objectifs principaux aujourd'hui de la boîte, c'est de faire évoluer tout ce qui est applicatif, parce qu'aujourd'hui tout le monde connaît Garmin Connect, mais des applis Garmin, tu vas voir sur le Apple Store ou Android Store, là, tu regardes le nombre d'applis qu'on a, c'est des milliers d'applis, quoi. Enfin, peut-être pas des milliers, mais un bon nombre de dizaines. Et donc, du coup, il faut aussi faire évoluer tout en même temps, parce que toutes les applis sont connectées les unes aux autres. Donc c'est vrai que sur le papier on aimerait avoir quelque chose de beaucoup plus simple, mais dans la pratique c'est quand même très très compliqué à mettre en place. Mais ça reste un de nos objectifs principaux.
Ok. Ouais, c'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Et voilà, moi, c'est des choses que j'entends quand je discute avec les gens qui viennent lire le site. Donc, du coup, voilà, c'est intéressant d'avoir ton retour aussi.
Ah, moi aussi, je l'entends. Voilà. T'inquiète. Je l'entends à chaque fois que je vais courir, à chaque fois que je vais faire du vélo avec des potes ou qu'à chaque fois que je vais sur un événement presse, un salon, que je vais chez mes revendeurs, que ouais, c'est tout le temps. Ouais, l'appli c'est top, le produit, mais il n'y a pas que l'appli, hein. Après il y a aussi des retours sur les produits, il y a des et c'est ça qui nous permet de progresser. Clairement, aujourd'hui, le fait qu'il y ait des applications qui soient quand même top sur le marché, même des applications tiers qui sont compatibles avec Garmin Connect, ça nous pousse aussi, ça nous tire vers le haut. Tu vois, par exemple, tout le monde dit oui, la guerre entre Strava et Garmin Connect, mais pas du tout, il y a pas du tout de guerre, c'est même plutôt nos partenaires Strava et on échange énormément ensemble et dès qu'ils font des évolutions, on essaie de voir comment nous on peut les aider sur leurs évolutions, comment nous on peut intégrer des choses qui pourraient être compatibles avec leur système, et comment nous on peut aussi faire évoluer notre application dans le même sens. Il n'y a pas du tout de guerre d'appli. Notre objectif, c'est pas d'être l'appli Strava numéro 2 ou même devant Strava, tu vois, c'est pas du tout l'objectif. Mmh. C'est plutôt d'essayer de fournir quelque chose de simple et performant pour les utilisateurs.
Ok. Alors, juste avant de conclure cet épisode, parce qu'on arrive gentiment au bout, tu parlais d'interopérabilité avec des applications. Je voulais revenir vers toi avec peut-être deux fonctionnalités qui, aujourd'hui, je me pose la question. Parce que j'ai eu un cas, je suis allé rouler il n'y a pas très très longtemps avec un ami qui, en l'occurrence, a un compteur de Wahoo. Et moi, j'avais mon Edge. Et puis, je me suis dit, quand j'allais rouler, je me suis dit, oh, bah, tiens, peut-être qu'il aura un compteur de Garmin, puis je pourrais tester le Group Ride. Et puis, les nouvelles notifications sur les signalements de danger du Edge 1050. Et puis, bah, il avait un compteur Wahoo. Et du coup, je me suis dit, ah ben mince, on ne pourra pas tester ça. Et je me suis dit, mais finalement, est-ce que ce ne serait pas une bonne opportunité d'avoir un espèce de standard pour le cyclisme avec ce genre d'informations? Parce que dans un peloton de 5 ou 8 potes qui vont rouler à vélo, il n'y a pas forcément 5 ou 8 personnes qui ont le Garmin compatible avec ça. Il y en a peut-être un qui a un Wahoo, puis un autre qui a un Hammerhead, et tous les autres, ils ont un Garmin. Et puis, on se dit, bah, ce serait sympa quand même de pouvoir faire un group ride tous ensemble, ou bien alors quand je mets un danger sur la route, bah, que si on a un compteur compatible, on puisse avoir la notification aussi sur une autre marque. Est-ce que c'est des choses pour lesquelles Garmin sont ouverts, ou est-ce que c'est plutôt dire, bon, bah, si vous voulez ces fonctionnalités, prenez un Edge ou un produit Garmin compatible, quoi.
Bah, aujourd'hui, effectivement, pour utiliser ces nouvelles fonctions, donc je précise quand même que ces nouvelles fonctions, elles sont sorties sur le dernier Edge, qui est sorti il y a quelques mois seulement maintenant, donc le Edge 1050. Ouais. C'est vraiment tout nouveau. Puis c'est clairement pour l'instant un test, on regarde si ça fonctionne, si les gens ils aiment. Tu sais, tu peux pas non plus lancer tout et dire à tout le monde, venez, 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 et puis. Bon, il faut prendre le temps de voir si les gens aiment cette fonction, est-ce qu'ils l'utilisent, est-ce que c'est intéressant pour eux. C'était une demande à la base, hein. C'est des retours du marché aussi, hein. C'est des besoins. On a entendu que voilà, les gens ils aimeraient avoir des informations d'autres personnes de la communauté qui pourraient leur dire l'état des routes, des dangers, enfin voilà, plein de choses. Donc là, on est en période de test. Bien sûr que à long terme, si on voit que ça cartonne, je pense que même ça viendra aussi des autres marques, tu vois, qui nous demanderont bon bah comment on peut essayer de créer quelque chose qui permettrait que nous aussi on puisse avoir ces données-là. Ça peut très bien se faire, tu vois, on parlait de Strava, mais je sais pas, mais on peut imaginer que Strava peut être un pont entre ça et les différents utilisateurs d'autres produits, ou on peut très bien imaginer un Connect IQ qui te permet de diffuser sur d'autres produits. Via le téléphone, tu vois, si t'es connecté via ton téléphone, tu peux créer un pont entre plusieurs applis. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais il y a plein d'idées qui pourraient se mettre en place. Mais déjà, il faut savoir si vraiment ça intéresse les consommateurs, si vraiment ils l'utilisent, si c'est intéressant pour eux. Et voilà. Mais tu sais, on l'a déjà fait par le passé, hein. Je prends l'exemple du Varia, donc qui est un radar qui permet de donner la distance des cyclistes derrière, enfin des cyclistes, des véhicules.
Oui, des voitures qui arrivent derrière, ouais.
Et en fait, au début, quand on a lancé ce produit-là, tout le monde disait ouais, c'est un gadget, ça sert à rien, machin, truc bidule. Bon, aujourd'hui, t'as des gens, ils font demi-tour parce qu'ils ont oublié leur Varia et qu'ils peuvent pas rouler sans sur la route, quoi. Tu vois, parce que c'est vraiment un élément de sécurité qui est incroyable. Et en fait, il y a tellement de personnes qui se sont accrochées à ce produit et qui voulaient absolument ce produit-là qu'il y a une forte demande aussi chez les marques concurrentes. et qui les ont poussés en fait à nous dire bon bah les gars, comment on peut rendre votre appareil compatible avec le nôtre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui sur d'autres marques de compteurs, tu as la possibilité d'avoir ton variable. Donc bien sûr, les nouvelles techno, un jour il faudra réfléchir à comment on peut créer des ponts entre les marques pour que les technos soient compatibles. Et puis le fait d'avoir une communauté qui échange ensemble, il y a un intérêt pour tout le monde, pour le consommateur et puis nous aussi pour comme marque, parce que ça permet comment d'avoir une fonction supplémentaire, de dire que effectivement dans le peloton t'es pas connecté uniquement avec tes potes qui ont un Garmin, mais aussi avec ceux qui ont d'autres compteurs, d'autres marques quoi. Donc c'est un vrai plus.
Ouais, donc Garmin pas fermé, et ce serait intéressant de voir à l'avenir comment ça se goupille. Dans le même aspect,
on n'est pas fermé. La preuve, c'est regarde Connect IQ, ouais. Ça montre bien qu'on n'est pas du tout fermé, parce que du coup, bah c'est une plateforme qui est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut venir créer des applications dans tous les sens. Donc on est vraiment très très ouvert même.
Alors après, point de vue personnel, et je sais que c'est une demande que je suis pas seul à avoir. Par exemple, typiquement, je cours avec le capteur Stride pour la puissance, mais sur les montres Garmin, je peux pas avoir mes entraînements basés sur la puissance en natif avec mon Stride, parce que je dois passer par leur application Connect IQ. Et donc du coup, si je fais un entraînement fractionné avec mes zones de puissance dans Garmin Connect, que je le pousse sur mon ma Garmin, il va utiliser la puissance native de la montre, mais pas le capteur Stride pour les données de puissance. Et ça, je sais que ça ennuie quand même pas mal de monde, donc il y a quand même quelques limitations. Voilà.
Oui, alors après, bon, moi je suis pas dans toutes les discussions avec toutes les marques, mais oui, je sais qu'il y a des choses, il y a des échanges, et on essaye de simplifier. Mais après, c'est vrai que nous, on a aussi nos trucs à défendre. Aujourd'hui, on a la puissance qui se fait nous, pas uniquement via la montre, mais aussi via la ceinture. Nos ceintures, elles sont plus que des capteurs de fréquence cardiaque, elles sont aussi des capteurs de puissance. Donc après, voilà, on essaie de trouver de trouver le juste équilibre entre mettre en avant aussi nos produits et puis aussi la compatibilité avec d'autres marques. J'imagine qu'il y a des discussions avec Stride. Avec Stride, je suis pas trop au courant, mais oui, j'imagine qu'il y a des discussions.
Non, c'était juste pour illustrer le fait qu'avec Connect IQ, on va pas forcément tout pouvoir avoir, mais effectivement, c'est un bon axe de développement pour la suite. Écoute, je te remercie d'avoir participé à cet épisode. On arrive un petit peu au bout de la discussion qu'on avait planifiée. Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu voudrais encore ajouter ou d'autres choses qui te viennent à l'esprit après cette discussion ?
Non, tu sais, alors moi, je pourrais t'en parler des heures et des heures et des heures, parce que je suis passionné et que c'est une super marque et on fait plein de nouvelles choses. En permanence, on traite une multitude de marchés. Et du coup, non, j'ai pas forcément de choses à rajouter, juste de dire que voilà, les gens ont tendance à croire que Garmin, c'est vraiment qu'une grosse entreprise, et en fait c'est ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment une boîte de passionnés. On essaie de développer aujourd'hui les meilleurs produits et on est vraiment à l'écoute du marché et de ce qu'ont besoin les consos. Et il faut quand tu t'équipes d'une Garmin, faut le voir comme ça, tu rentres dans une sorte de grande famille ça serait vraiment mon dernier mot, c'est quand tu achètes une Garmin, tu rentres dans la famille Garmin et tu rentres dans la participation à aussi le développement de ces nouveaux produits. Et moi, j'échange énormément avec des consos par mail qui envoient des retours, des super bonnes idées et qui permettent de faire évoluer les produits aujourd'hui. Donc je pense qu'elle appartient aussi un peu à tout le monde, la marque et les produits. Et c'est aussi vous qui faites évoluer les produits en permanence, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut conclure un petit peu la discussion.
Ah, je pense que c'est très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir échangé ici dans le podcast, et d'avoir participé à cet épisode. Et écoute, on se réjouit de découvrir toutes les nouveautés que Garmin va nous proposer pour l'année 2025, de découvrir tout le travail que vous faites depuis des années pour nous sortir ces prochains modèles. Et merci encore de ta participation.
Eh ben merci à toi de m'avoir invité. Et puis oui, vous inquiétez pas pour les nouveautés. Il y aura plein de nouvelles incroyables choses qui vont arriver dans les prochaines années, comme d'habitude.
Merci beaucoup, Jonathan, pour ton temps. Et puis à très bientôt.
À très bientôt. Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Transition. On se retrouve dans 2 semaines pour un épisode sur les coulisses de Nakan.ch. À très bientôt.